Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Sur le plan économique, il faut reconnaître que les résultats ne sont pas encore atteints, puisque notre plan doit être terminé en 1966. Mais d'ores et déjà, nous sommes arrivés à mettre en chantier un certain nombre de petites industries de transformation. Et sur le plan social, nous pouvons dire qu'en 3 ans, l'effectif des écoles et des classes a triplé.
Ce bilan plutôt mitigé qu'il dresse 3 ans après son accession au pouvoir ne va pas aller s'améliorant. Bien qu'il jouisse d'un grand respect à l'international, la révolution scientifique qu'il a choisie comme option pour le Mali semble ne pas porter de fruits. Au contraire, suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali. En 1967, c'est le tournant. Le Mali entre dans ce que le gouvernement va appeler l'an 1 de la révolution. Au mois de mai, le chef de l'État signe avec la France des accords monétaires qui aboutissent à une dévaluation de 50% du franc malien, ce qui naturellement provoque un important mécontentement au sein de la population. De mai à juillet de cette année 1967, la situation est quasi électrique dans le pays. Des tracts mettent clairement en cause l'option socialiste de Modibo Keïta. Le charme est rompu. Le Mali entier est le théâtre de gigantesques manifestations de masse conduites par les jeunes et les syndicats. Monsieur Bakary Kamian, vous qui étiez professeur d'idéologie dans cette période à l'école du parti, ne pensez-vous pas que cette idéologie socialiste s'est très vite avérée à ce moment-là inadaptée aux réalités, qu'elle ne correspondait pas à l'environnement malien?
On avait pensé au début qu'il fallait décoloniser l'économie d'abord, faire disparaître les structures économiques coloniales et ensuite instituer un nouveau système qui serait basé sur la coopération et l'augmentation de la production. Cette augmentation de la production était basée sur l'organisation du monde paysan et qui devait augmenter sa production et ensuite assurer le crédit agricole collectif et qui devait se dérouler dans le cadre du plan quinquennal, un plan quinquennal élaboré par les différents ministères du pays, et ces différents ministères exprimaient leurs besoins, leurs projections dans le passé, et avec ces projections, il y avait la coordination au niveau du plan. Et ensuite, une discussion au niveau du parti. Une fois que le plan était adopté, le parti devait répandre les mots d'ordre pour appuyer la réalisation du plan. Et ensuite, organiser le monde paysan en zone d'économie rurale, en zone d'expansion rurale. Alors, chaque village devait bénéficier des crédits et en même temps assurer l'import et l'exportation de ses productions.
C'était un peu naïf de penser ça, non, avec le recul. Vous ne pensez pas que c'était quelque chose de particulièrement titanesque à mettre en œuvre pour un jeune État?
Je crois que c'était de l'idéalisme. C'était de l'idéalisme. On avait pensé véritablement à ça. Mais on a pensé que cela supposait qu'on éliminait les commerçants, le commerce traditionnel. Or, notre pays était un pays de commerçants depuis le 11e, 12e siècle. Et je crois que ce sont les commerçants qui ont tout mis en œuvre pour ruiner le régime, pour affaiblir le régime et au contraire le discréditer. Autrement, c'était peut-être sur le papier c'était très beau, mais dans la réalité c'était difficile à réaliser.
Monsieur Seydou Badian Kouyaté, vous étiez considéré comme le théoricien de ce socialisme à la malienne, celui qui faisait pression pour qu'il se poursuive. Vous étiez d'ailleurs présenté comme l'aile gauche de Modibo Keïta qui impulsait cette idéologie.
Je n'étais pas à sa gauche, j'étais avec lui.
Vous n'étiez pas un peu plus à gauche que lui?
Non. Le seul problème, c'est que j'étais lié à la Chine.
Ce qui n'était pas rien.
Ah, c'était pas rien. À l'époque, il y a un journaliste français spécialiste de l'Afrique qui m'a traité de tout. Pro-chinois, ceci, cela, etc. Et ça, j'ai de traîne encore, d'ailleurs.
Ce qui était vrai, en réalité.
Oui, mais je ne m'en cache pas. Et je ne renie pas.
Mais alors,
Tout ce que nous avons fait de solide, nous l'avons fait en coopération avec la Chine.
Est-ce que votre option socialiste était vraiment socialiste? Est-ce que ça ressemblait à ce que l'on pratiquait en Russie ou en Chine?
Non. Vous savez, nous n'avions pas étatisé. Nous n'avions rien à étatiser.
Justement.
Nous partions pratiquement de zéro. Je vous ai dit, nous n'avions pas de capitaliste au sens créateur, au sens dynamique. Nous avions des traitants, parce que pendant la traite, ils achetaient des produits pour les maisons coloniales. Nous les appelions des traitants. C'était des moyens, des petits négociants. Pas un n'avait une usine. Nous avions trouvé une usine qui clopinait à 60 km de Bamako, faisait de l'huile et du savon. Nous l'avions d'ailleurs balayé pour créer une usine ultramoderne avec la coopération allemande cette fois-ci, avec Krupp.
L'option socialiste, c'était pour combattre le capitaliste. Mais là, il n'y avait pas de capitaliste du tout.
Non, mais vous savez, on peut donner le nom que l'on veut. Certains ont dit capitalisme d'État. Nous, ce que nous voulions construire, bâtir selon nos vues, bâtir selon l'idée que nous nous faisions de notre pays, que nous nous faisions de l'homme malien, bâtir pour tout le monde.
C'est ce que vous avez appelé le socialisme à l'africaine?
Ah, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais nous, c'était ce que nous voulions, le contenu, c'était cela. Nous avions toutes les usines, c'est nous qui les avions construites.
Mais ces usines-là...
Nous avons commencé à élaborer le tissu industriel du Mali.
Est-ce que ce fut une réussite, monsieur Sédou Badian?
C'était une pleine réussite. Mais vous savez, on nous a combattus de tous les côtés.
C'est clair.
À part la Guinée de Ségou Touré, tous les autres nous étaient plus ou moins hostiles. Et le Mali est central. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, les grands ne voulaient pas qu'on réussisse parce que nous étions un mauvais exemple. Ça, c'était connu, ça.
Si on devait mettre quelque chose à votre actif dans cette période-là, parce qu'il faut reconnaître que les discours auprès des paysans avaient du mal à passer, les discours révolutionnaires, la révolution, les paysans avaient du mal à entendre ça dans un pays qui est essentiellement rural. Est-ce qu'il n'y a pas eu chez eux une rupture entre vous et le peuple?
Nous ne faisions pas de discours révolutionnaires aux paysans. Nous leur disions ce que nous voulons qu'ils fassent. Qu'ils se mettent ensemble pour produire, ils y gagnent. Qu'ils se mettent ensemble pour vendre, ils y gagnent. Ils n'ont pas besoin d'autres discours révolutionnaires.
Mais on leur parlait de la révolution. On a parlé de l'an 1 de la révolution, de l'an 2 de la révolution. On a divisé...
On appelle ça... Ça, c'était le terme des intellectuels. On n'avait pas besoin de dire ça aux paysans. Vous savez, nous n'avons jamais dit que les fruits de ce que nous sommes en train de construire, de produire, seraient pour demain. Nous avons toujours dit que c'est pour demain, après demain, après demain. Nous avons pensé plutôt à la génération qui viendrait après nous.
Mais la population s'impatientait.
Mais vous savez, la population y gagnait beaucoup. Nous avions la société malienne d'importation et d'exportation, SOMIEX, qui vendait les produits au même prix à Kaï Kagao. C'est la population qui y gagnait. Elle n'a jamais vu ça. Les prix des produits de première nécessité étaient les mêmes.
Mais cette SOMIEX qui détenait le monopole de l'import-export a également suscité le mécontentement.
La SOMIEX, en général, ne faisait pas de détails. Au contraire, nous avons beaucoup aidé les commerçants.
Pourtant, les commerçants du lait étaient très, très mécontents.
La SOMIEX était grossiste. Beaucoup de commerçants ont gagné avec la SOMIEX. Elle ne leur a pas fait concurrence. Je vous ai dit au départ qu'ils n'avaient rien pour importer.
Mais dans le même temps, les négociants qui, depuis des siècles et des siècles au Mali, allaient chercher leurs marchandises à l'extérieur pour venir vendre, étaient un peu fragilisés. On a vu le mécontentement des commerçants d'Youla essentiellement.
Mais ils allaient chercher quoi? Ils l'avaient à portée de main. C'était pas ça le fond du problème.
C'était quoi le fond?
Le problème, c'était les cadres. C'était plutôt les cadres qui avaient d'autres appétits, qui voyaient leurs homologues des pays voisins s'engraisser, s'enrichir. C'était cela. On fêtait des fortunes. Eux, nous leur proposions seulement le travail.
Mais on a vu des cadres et des hauts fonctionnaires s'enrichir au Mali pendant cette révolution.
Ah, je vous donne mon billet, comme on dit en mille, comme désigne un de nos cadres qui s'est enrichi dans notre système.
Mais lorsque l'on parlait des taxis de la révolution, C'était pas pour rien.
Oui, mais ça, c'est ça, vraiment, taxi, c'était broutille. Vous savez, venez voir un peu les taxis de Bamako. Hein. C'est, passez-moi l'expression, c'est des tacos. On ne fait pas fortune avec ça.
Devant l'ampleur du mécontentement, le président Modibo Keïta va réagir en prenant lui-même la tête du mouvement. Aussitôt, il dissout le bureau politique de son parti, l'Union soudanaise RDA. Il chasse également quelques ministres mis en cause dans la corruption que l'on reproche à son gouvernement. Le Conseil national de défense de la Révolution assume la direction politique. Après l'autodissolution de l'Assemblée nationale, Modibo Keïta gouverne le pays par ordonnance, pendant que les organismes du parti préparent de nouvelles élections. Le régime se durcit. Malgré cette volonté affichée de changement qui aboutit au mois de février 1968 à la réintégration du Mali à la zone franc, le marasme économique persiste. Nulle part ailleurs, le malaise n'est aussi perceptible que dans l'armée. Les militaires, et en particulier les jeunes officiers, supportent très mal l'évolution politique du pays. Ils n'acceptent plus, par ailleurs, d'être moins bien traités que les hommes de la milice mise sur pied par le parti et qui bénéficient d'une meilleure considération et surtout d'un meilleur équipement. À leur plainte, Modibo Keïta semble sourd. Certains commencent à parler de dérive dictatoriale. Bref, les militaires ne sont pas contents du tout. L'option socialiste ne les satisfait absolument pas. Monsieur Seydou Badian Kouyaté, vous qui étiez un des principaux ministres de Modibo Keïta, est-ce vrai que le président était de plus en plus autoritaire, que l'on assistait en cette période à une dérive dictatoriale?
Modibo n'a jamais été un dictateur. Moi, j'étais membre du bureau politique, la direction du parti. Nous sommes aujourd'hui deux survivants. Deux. Modibo, nous avons mis Modibo en minorité combien de fois? Et il s'inclinait. Et ça me fait rire quand on me dit que Modibo a été un dictateur. Ça me fait rire. Nous l'avons mis tout combien de fois. Il s'inclinait, il acceptait. Et il faisait ce qu'on lui disait de faire.
Il était ouvert
Modibo
à la discussion.
Modibo n'a jamais été un dictateur. Modibo n'a jamais mêlé sa famille. Vous savez, il a fallu qu'on forme une délégation. Un jour, je me souviens, avec un autre camarade, malheureusement décédé, pour aller voir Modibo lui dire de faire son frère un ministre. Il dit jamais, il restera haut commissaire. Je ne lui donnerai jamais le chapeau de ministre. Il a refusé. Alors qu'ailleurs, on voit ce qui se passe. La famille de Modibo ne s'est jamais mêlée à nos problèmes. Jamais, comme cela se passe aujourd'hui. Jamais.
Alors,
aujourd'hui, on forme le gouvernement, c'est la femme qui forme le gouvernement, qui l'impose au mari. On l'a dit ça. Moi, je voyage beaucoup à travers l'Afrique.
Mais qu'est-ce qui faisait monter la grogne au sein de l'armée?
Mais je vous dis, même l'armée, je me souviens... Un officier décédé aujourd'hui, un des pilotes du coup d'État, disait à ses camarades, j'en ai assez de la pauvreté. J'en ai assez de la pauvreté. C'est ce que je vous ai dit, il lorgnait, il regardait ce qui se passe ailleurs. Il voulait s'enrichir, il voulait le confort, il voulait le luxe. Et ce n'était pas notre option. Ce n'était pas notre vision des choses.
Et c'était ce que voulaient les militaires? Ils voulaient s'enrichir?
Bien sûr. Certains, pas tous. Surtout les jeunes. L'erreur de Modibo, une de ses erreurs, Modibo faisait une confiance illimitée à la jeunesse. On lui a dit que les jeunes militaires préparent un coup d'État. Sa réponse a été, si c'est des jeunes, ça ne fera qu'avancer le pays. Les vieux crabes, comme il disait, les vieux crabes rivés au système colonial ne prendront pas le pouvoir, ne seront pas les maîtres du Mali tant que je suis en vie.
La tension est en tout cas à son comble au Mali. Mardi 19 novembre 1968, il est 7h du matin, l'heure des informations à la radio nationale. Pourtant, à la place du bulletin d'information, le média d'État diffuse de la musique. Des chansons du vieux griot Banzoumana Sissoko, qui évoque l'époque du Grand Mali, de grands empires. Un changement de programme suspect qui suscite la curiosité des habitants de la capitale. Que se passe-t-il donc à la radio? Connaissant la tension qui régnait depuis quelque temps dans les sphères militaires, la plupart des auditeurs se rendent très vite compte qu'il ne peut s'agir que de la prise de la radio ou d'un coup de force. Surtout que les soldats, les unités,
prennent progressivement position dans les principaux points stratégiques de Bamako. Pendant ce temps, le président Modibo Keïta est sur le bateau qui le ramène de Mopti, la Venise malienne située sur le fleuve Niger. Le chef de l'État est à 80 km de Bamako sur son bateau baptisé Général Soumaré. C'est donc dans ce cadre paradisiaque qu'il reçoit un message lui annonçant les mouvements de troupes dans la capitale. Monsieur Amadou Seydou Traoré, vous étiez à bord de ce bateau lorsqu'il a reçu ce câble, comme on l'appelait à l'époque. Quelle a été sa réaction lorsqu'il a été mis au courant de ce qui se passait à Bamako, du putsch qui était en cours?
Il a aussitôt réuni tous les responsables qui l'accompagnaient dans son voyage et il a décidé ceci. Premièrement, il faut désarmer sa garde rapprochée afin que, même par inadvertance, aucun militaire ne fasse partir un coup et qu'aucune goutte de sang malien ne soit versée pour que Modibo reste président. Deuxièmement, décide de marcher sur Bamako. Et quoi qu'il arrive, il assume. Si c'était un homme qui était ambitieux et qui était fou de pouvoir, la réaction certainement n'aurait pas été celle-là.
Certainement. Modibo Keïta n'est pas homme à s'enfuir. Il décide donc de poursuivre son voyage en direction de Bamako qu'il sait assiégé par les mutins. Sédou Badian Kouyaté, qu'est-ce qui, d'après vous, l'amène ainsi à poursuivre son voyage, à regagner Bamako malgré tout?
Modibo était d'un courage inouï. Et puis, il avait foi. Modibo ne pensait pas que les Maliens pouvaient renverser le régime que nous étions en train de bâtir. Parce qu'il savait que nous étions en train de construire pour le peuple, pour tout le monde.
Mais est-ce que ce jour-là, ce 19 novembre 1968, il a continué sur Bamako simplement parce qu'il ne croyait pas au message qui lui était adressé? Il ne croyait pas qu'il puisse être renversé?
Non, il croyait. Mais il voulait discuter avec les jeunes. Il avait la conviction qu'il pouvait les faire reculer. Parce qu'il n'imaginait pas que le Malien pouvait, encore une fois, faire tomber l'édifice que nous étions en train de bâtir.
Modibo Keïta va donc, question de stratégie, débarquer du bateau à Koulikoro, petite bourgade située à 50 km de Bamako, où il va prononcer un discours dans lequel il exhorte la jeunesse avec laquelle il a toujours entretenu des relations privilégiées à continuer le combat pour une société de justice sociale et de liberté. Il ne fait allusion qu'implicitement au putsch en cours. Juste après cet entretien, le cortège reprend très naturellement son chemin vers Bamako, par la route cette fois-ci. À 10h30, près du village de Massala, le convoi est contraint de s'arrêter parce qu'un tank a été placé en travers de la route. Dès que les voitures se sont arrêtées, un autre char s'est aussitôt disposé derrière elle pour barrer toute possibilité de repli. Et pour montrer qu'ils ne tergiverseront pas, les militaires tirent quelques rafales de mitraillettes à ras du sol. L'opération, montée avec des soldats venus eux aussi de Kati, est dirigé par un certain lieutenant Tiekoro Bakayoko. Il a été choisi pour son audace, parce que peu d'officiers auraient osé aller intercepter Modibo Keïta, auquel l'imagerie populaire prête des pouvoirs surnaturels. Tiekoro Bakayoko demande au président de se mettre à la disposition de l'armée. Il invite à monter dans le tank. Une heure après, le cortège arrive à Bamako. Il rejoint immédiatement le siège de l'Union soudanaise RDA, qui est devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Tous les dirigeants du parti et membres du gouvernement arrêtés sont détenus dans ce local. C'est là que va avoir lieu une première rencontre entre Modibo Keïta et le cerveau du putsch, le capitaine Yoro Diakité. Il propose au président, s'il veut poursuivre sa tâche, de se défaire de quelques-uns de ses collaborateurs, ce que Modibo Keïta refuse. Revenant à la charge, il l'exhorte à abandonner le socialisme. Nouveau refus, c'est l'impasse. Comment va se terminer ce bras de fer entre l'armée qui est déjà allée aussi loin et le président Modibo Keïta qui ne veut pas se plier à leurs exigences? Pourquoi reste-t-il aussi ferme dans sa position? Sur quoi ou sur qui compte-t-il pour le sortir de ce mauvais pas? Les militaires iront-ils jusqu'au bout de leur logique? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique, spéciale Modibo Keïta, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Les Archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Bamako. Des troupes patrouillent dans la capitale du Mali. Le chef de l'État, M. Modibo Keïta, a été renversé par l'armée. Un comité militaire de libération nationale assume désormais les pouvoirs.
Huit ans après son arrivée à la tête du Mali, dont il a déclaré l'indépendance, le président Modibo Keïta est confronté cette fois-ci, en ce mois de septembre 1968, à l'armée qui lui demande de renoncer à sa révolution socialiste ou de quitter le pouvoir. Alors qu'il était en déplacement à Mopti, la Venise malienne, l'armée a pris position dans les principaux points stratégiques de la capitale et un détachement est allé l'intercepter pour le ramener à Bamako. On l'a ramené immédiatement, ironie du sort, au siège même de son parti, l'Union soudanaise RDA, qui est devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Tous les dirigeants du parti et membres du gouvernement arrêtés sont détenus dans ce local. C'est là que va avoir lieu une première rencontre entre Modibo Keïta et le cerveau du putsch, le capitaine Yoro Diakité. Il propose au président, s'il veut poursuivre sa tâche, de se défaire de quelques-uns de ses collaborateurs, ce que Modibo Keïta refuse. Revenant à la charge, il l'exhorte à abandonner le socialisme. Nouveau refus, c'est l'impasse. À l'issue de cet entretien, le Comité militaire de libération nationale, CMLN, se décide enfin à diffuser un communiqué à la radio annonçant la prise du pouvoir par l'armée. Ce communiqué est lu par un des jeunes officiers, un lieutenant qui a participé à la prise de Bamako. Il s'appelle Moussa Traoré.
Malienne, Malien, aujourd'hui, 19 novembre 1968, l'heure de la liberté a sonné. Le régime dictatorial de Modibo Keïta et de ses valets a chuté. Le comité militaire de libération nationale assumera désormais les pouvoirs politiques et administratifs en entendant la formation d'un gouvernement et d'institutions politiques démocratiques issues d'élections libres. Vive le Mali, vive la République.
C'est Loubadian Kouyaté. Vous avez toujours été persuadé que ce coup d'État, ce putsch, était téléguidé. Pour vous, ce n'était pas l'œuvre de ces officiers?
Je ne pense pas. Vous savez, il y avait parmi eux des gens qui étaient manipulés par l'impérialisme, il faut le dire. Parce que nous nous gênions. Notre exemple était un mauvais exemple. Un mauvais, mauvais, mauvais exemple. Il fallait nous abattre.
Est-ce que ce n'est...
l'Occident était d'accord.
Est-ce que ce n'est pas un peu paranoïaque? Est-ce que ce n'est pas un peu paranoïaque, monsieur Sédou Badian? Lorsque vous dites qu'il fallait vous abattre, ils auraient pu vous abattre. Ce n'était pas
mais
si pas difficile que cela.
Ah, vous savez, ils ont tenté pas mal de choses, hein, sur lesquelles nous sommes tués.
Un exemple?
Modibo a échappé à un attentat dans la haute vallée du Niger.
Perpétré par qui?
Ah, vous savez, regardez autour de vous.
Je vous avoue que j'ai du mal.
Ah, vous avez tort. Regardez bien.
Toujours rien.
Vous savez, ce qu'on était en train de faire aurait certainement fait basculer plus que la sous-région. Si nous avions réussi, et on aurait réussi, et le Mali aurait été aujourd'hui parmi les pays émergents.
Ce soir du 19 novembre 1968, Modibo Keïta va passer sa première nuit en prison. Avec lui, certains membres de son gouvernement et dignitaires du régime. Lui nègre, le ministre du Plan et des Finances dans le dernier gouvernement de Modibo Keïta.
Bon, cela s'est passé très simplement, et après l'intervention des militaires, nous étions tous plus ou moins consignés dans nos résidences et j'ai eu la surprise de voir deux officiers qui sont venus me demander de bien vouloir reprendre mon service comme par le passé.
Vous êtes donc confirmé comme ministre des Finances. Sur quels critères s'est-on fondé pour rappeler les anciens ministres?
Je crois qu'on s'est fondé sur deux séries de critères. Je crois d'abord critère de technicité, si j'ose m'exprimer ainsi. Et ensuite par le fait qu'on savait quand même à Bamako et dans l'opinion publique que certains d'entre nous n'étaient plus du tout d'accord avec les méthodes de gouvernement de l'ancien régime, étaient même en désaccord fondamental sur certains points essentiels.
C'était votre cas. On dit même que certains ministres étaient sur le point d'être arrêtés.
Le bruit en avait couru, mais en fait, je n'en ai pas eu la confirmation ni la certitude non plus.
Vous-même ne vous attendiez pas à une arrestation?
Non, j'attendais à être démis un jour ou l'autre, mais pas être arrêté.
Est-ce que vous pouviez réussir avec le régime tel qu'il fonctionnait ou non. Fallait-il un changement?
À mesure que le régime se radicalisait et tombait un peu dans le verbalisme pseudo-révolutionnaire et accentuait la méfiance et la défiance, il était certain qu'on ne pouvait plus arrêter la dégradation de la monnaie.
Dans la rue, à Bamako comme à l'intérieur, s'exprime ouvertement en ce mois de novembre 1968 les récriminations que lui faisait la population.
La raison principale était les choses, c'était les miliciens qui agissaient vraiment d'une façon brutale comme Hitler en 1945.
Aussi fort que cela?
Oui, c'était pire que cela, si on peut même dire. Hein.
C'est eux qui faisaient la loi?
C'est eux qui faisaient la loi, en quelque sorte. À 2h du matin, tu peux sortir en ville. Même chose, revenant une heure de temps après le cinéma, les miliciens vous rencontrent en cours de route avec une sœur ou bien avec une cousine. Ils vous demandent vos pièces d'identité, vos papiers de mariage. Si vous n'avez pas ça, ils vous prennent, ils vous amènent au camp.
On était fatigués. Nos pères, nos mères, tout le monde. On n'avait plus de riches, ni de mille dans nos maisons.
Sous l'ancien régime, on arrêtait beaucoup de gens.
On arrêtait beaucoup de gens. J'ai même des camarades qui sont partis à Kidal.
Qu'est-ce que c'est Kidal?
C'était un endroit presque là où on tue les personnes.
Hein. Vraiment, le régime de Modibo Keïta tuait des gens?
Oui, il tuait vraiment des gens. Il a tué plus de 1000 personnes. Hein.
Enfin, maintenant, c'est meilleur.
Oui, c'est meilleur maintenant.
Pour les mères de famille?
Oui.
Et est-ce qu'on a encore peur de la milice maintenant?
Non, du tout.
Et des militaires, on n'a pas peur.
Non.
Les nouvelles autorités peuvent alors expliquer à la communauté internationale, qui est restée silencieuse, les raisons de leur action.
Eh bien, les militaires ont fait le coup d'État du 19 novembre parce que le 19 novembre, l'armée était persuadée que l'ancien régime ne répondait plus aux aspirations du peuple. C'est pour cette raison que les militaires ont procédé au coup d'État. La fraction de l'armée qui a mené le coup d'État au nom de toute l'armée, a agi de sa seule initiative. Elle n'a été guidée ni par aucun dirigeant, d'où que ce soit. D'ailleurs, c'est ça qui fait que certains sont embarrassés parce qu'on se demande si l'armée a été, comme disent les gens, téléguidée par la droite ou par la gauche. Je dois vous avouer que le coup d'État est le résultat d'une certaine prise de conscience de notre armée devant les objectifs nationaux.
Et à quels anciens dirigeants l'armée et la population en voulaient-elles plus particulièrement?
Je dois vous dire que l'armée, aussi bien que la population, en voulait à tous les dirigeants qui méprisaient sa liberté et ses intérêts vitaux. À cet égard, il est certain que l'organisme de conception du régime ancien n'agissait plus pour les intérêts du peuple, mais agissait pour asseoir le pouvoir personnel d'un seul homme. Quand l'armée aura assaini l'économie et aura mis en place des institutions pouvant permettre le fonctionnement légal de la vie intérieure du pays, eh bien l'armée se retirera, n'est-ce pas, du circuit et rentrera dans les casernes.
Mais là ne s'arrête pas l'histoire de celui qui rêvait d'une fédération réunissant les États d'Afrique. Son absence physique de l'échiquier politique ne fait qu'accentuer son prestige. Pourtant, les responsables militaires s'emploient à effacer son nom des manuels et de l'histoire nationale. Janvier 1977, les jeunes s'agitent à nouveau dans la rue au Mali. La situation sociale ne s'est pas améliorée entre-temps. C'est au cri de « vive Modibo » qu'ils défilent dans la capitale. L'aile dure du pouvoir est inquiète. L'ancien président malien se trouve alors en prison à Bamako où on vient de le transférer. Quelques jours plus tard, plus exactement le 16 mai 1977, la radio nationale malienne lit un communiqué laconique en ces termes. Modibo Keïta, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'un œdème aigu des poumons. Fin de citation. Ce communiqué va faire l'effet d'une bombe. Surtout pour ses parents qu'il avait vus quelques heures auparavant en parfaite santé. Devant leur manifestation, va naître la thèse de son assassinat par les autorités politiques de l'époque. Une thèse qui persiste jusqu'à ce jour. Pourtant, personne n'est arrêté pour ce crime. D'ailleurs, aucune enquête officielle ne confirme pour l'instant cette thèse de l'assassinat. Monsieur Seydou Badian Kouyaté, vous faites partie des proches qui ont toujours privilégié la thèse de l'assassinat. Pour vous, il s'agissait d'un empoisonnement, carrément.
D'après moi et d'après nous tous, il a été assassiné.
Assassiné par qui?
Par le service de sécurité malien de l'époque.
Pourquoi?
Parce que on pensait que la population allait basculer. Ça commençait par les jeunes. Et puis on sait, quand ça commence par les jeunes, jusqu'où ça peut aller.
C'est quand même surprenant. Jusqu'à présent, on n'a jamais ouvert une enquête pour savoir comment il est mort.
Non, vous savez, on aurait pu faire une autopsie, on aurait pu, mais ce n'est pas dans notre culture. On ne le ferait pas. Mais nous savions et nous savons qu'il a été assassiné.
Vous qui étiez si proche de lui, vous avez mené une enquête à un moment ou à un autre, même si elle n'est pas officielle.
Mais je viens de vous dire qu'il a été assassiné. Je ne l'ai pas inventé. Je tiens ça de plusieurs sources.
Il a été empoisonné, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Non, on l'a tué par injection.
Ah, on l'a tué par injection.
Oui.
Il y avait un témoin?
Oh, vous savez, on parle ici. On parle en douce, on parle en anonyme.
Juin 1990, le traditionnel sommet franco-africain se tient cette année-là à La Baule. La plupart des chefs d'État d'Afrique francophone sont présents. Le président français, François Mitterrand, au plus bas dans les sondages dans l'Hexagone, a décidé de changer de cap dans sa politique africaine. Le nouvel objectif avoué est celui de l'instauration de la démocratie sur le continent. Il parle de prime à la démocratie.
Il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays d'Afrique. Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible.
Ce choix représente un véritable bouleversement dans cet environnement où la plupart des dirigeants ont été installés au pouvoir par la volonté de Paris, sans passer par les urnes, et où ils se contentaient très souvent de veiller sur leurs intérêts et ceux de l'ancienne métropole. Cela suffisait pour être maintenu au pouvoir. Cette prime à la démocratie est perçue par ses présidents, par ses chefs d'État comme une insulte. Certains s'offusquent d'ailleurs ouvertement devant cette ingérence dans la politique intérieure des pays dits souverains. Pour Moussa Traoré, qui ne cache pas sa désapprobation, François Mitterrand a parlé aux chefs d'État africains comme à des enfants. Et toujours selon lui, il n'a pas tenu compte des réalités ancestrales, coutumières et traditionnelles d'un continent qui n'a rien à apprendre de l'Europe en matière de gestion des peuples. Moussa Traoré va bien faire comprendre que le multipartisme que préconise le président français ne correspond pas aux réalités maliennes. Il n'est absolument pas question de l'instaurer. Il pense d'ailleurs que le peuple malien est d'accord avec lui sur ce point au moins. Et c'est dans ce contexte que surviennent, en mars 1991, les émeutes qui vont ensanglanter le Mali. Ce mois de mars 1991 marque un tournant décisif dans l'histoire moderne du Mali. Après plusieurs jours d'émeutes sanglantes, Moussa Traoré, qui déplore la mort de plusieurs manifestants, reste persuadé que tout ceci n'est qu'un dur moment à passer. Mais autour de lui, l'escalade de la violence commence à inquiéter. Dans la nuit du 26 mars, après un énième jour de manifestation, une partie de l'armée réunie en Conseil supérieur du salut du peuple décide d'arrêter le massacre en mettant un terme au régime de Moussa Traoré. Pour accomplir cette délicate mission, un homme est choisi parmi les officiers. Un homme qui a du respect et de l'admiration pour le président. Il s'appelle Amadou Toumani Touré. Il est lieutenant-colonel, un collaborateur proche du chef de l'État.
Après avoir tiré et massacré, l'armée qui s'en est d'ailleurs excusée fraternise maintenant avec la foule. Les tortionnaires d'hier sont devenus les héros d'aujourd'hui. Scène de liesse, tout est déjà oublié ou presque. La volonté populaire était de chasser le tyran qui, quelques heures avant d'être trahi par ses proches, s'enfonçait encore dans ses certitudes.
Ce que les médias disent est contraire à ce qui se passe dans notre pays, et que les réalités sont toutes autres, qu'il y a 140 morts, 150 morts, qu'il y a 1000 blessés, qu'on a utilisé des lance-flammes, qu'on a utilisé des bombes à fragmentation. Et j'ai dit que tout cela est une insulte à mon endroit, quand on sait que c'est moi qui ai instauré la démocratie dans ce pays.
Déjà censuré par son aide de camp, Moussa Traoré ne se rend pas compte que ses heures sont comptées. Le changement de régime n'aura duré que 3 jours, mais le bilan est très lourd. Plus de 300 morts et de nombreux blessés. Le chiffre exact ne sera jamais connu car beaucoup de cadavres ont été jetés dans le Niger ou enterrés à la hâte dans la brousse. Le temps des règlements de compte s'instaure. Ici, un ministre lynché par la foule dont le corps brûle en pleine rue. Si le général Traoré a quitté le devant de la scène, les militaires ont encore le premier rôle. Parmi eux, le lieutenant-colonel des parachutistes Toumani Touré, qui s'est proclamé président du Conseil de réconciliation nationale. Entouré de quelques représentants d'organisations démocratiques qui ressemblent plus à une caution populaire qu'à de futurs membres d'un gouvernement d'union, et avant d'annoncer sa prise du pouvoir, Toumani Touré répond aux premières questions qui lui sont posées.
Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant?
L'ancien président vit. Sa femme également. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort.
Vous allez donc donner le pouvoir aux civils?
Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, il n'a qu'à lever ses galons et revenir dans les palettes politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus.
Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils?
Je pense que c'est une question piège. En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible.
Vous pensez que le calme va revenir rapidement?
Nous souhaitons que le calme soit revenu vite, parce que notre peuple ne mérite pas ça du tout.
Maintenant qu'une page est tournée et que le calme est revenu à Bamako et dans tout le pays, le colonel Touré doit retrouver la confiance du peuple et relancer la machine économique. Il devra aussi tenir ses promesses, c'est-à-dire l'instauration du multipartisme et la tenue d'élections libres.
Comme son prédécesseur Modibo Keïta, qu'il avait renversé en 1968, Moussa Traoré est incarcéré à son tour. Et au moment de sa chute, on entend ça et là des voix scander le nom de Modibo Keïta. Plus de 50 ans après son départ du pouvoir, le nom de Modibo Keïta continue de susciter dans le milieu malien de vifs débats. Des échanges presque toujours passionnés. Monsieur Seydou Badian Kouyaté, après tout ce temps, l'image de Modibo Keïta a-t-elle été restaurée? A-t-il été réhabilité?
Aujourd'hui, il y a, sous le régime Alpha Oumar Konaré, on a construit un mémorial Modibo Keïta. Vous voyez, curieusement, les jeunes qui se marient aujourd'hui, après la mairie, ils vont se faire photographier sous la statue de Modibo.
Seydou Badian Kouyaté, plus d'une quarantaine d'années après sa mort, si vous deviez dresser le bilan du passage de Modibo Keïta à la tête du Mali, que diriez-vous?
Un être exceptionnel, à cheval sur la morale, un être qui appliquait l'impunité zéro et qui disait d'ailleurs, avec des gestes d'immoralité, il faut avancer l'acide et le feu en main.
L'acide et le feu en main?
Oui,
c'est violent.
Modibo était inattaquable sur le plan moral. C'était un ascète.
Et qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre, en dehors de sa moralité qui est très très importante, c'est vrai?
Le courage.
Mais ce que vous avez réalisé, ce que vous avez construit, si on devait dire aujourd'hui, voici ce qu'on gardera de Modibo Keïta, qui ne soit pas personnel, qui ne soit pas tout simplement dans son caractère, matériellement.
Mais si vous venez au Mali aujourd'hui, je vous ai parlé de l'usine textile de Ségou, qui emploie 1700 travailleurs maliens, c'est de Modibo. La sucrerie, c'est de Modibo. Modibo avait construit une tannerie, je vous ai dit, qui fabriquait les chaussures et les ceinturons de l'armée en 65. C'est de Modibo. La cimenterie, évidemment. Après le coup d'État, le fonds monétaire, on a tout bradé. Et nous sommes retombés à l'économie coloniale.
Les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Mali semblent unanimes pour le faire rentrer dans le panthéon imaginaire du pays. D'abord le président Alpha Omar Konaré, puis le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Nous serons toujours reconnaissants à Modibo Keïta et à son compagnon de l'Union soudanaise d'avoir donné à notre pays un nom, son nom, un titre, son titre, d'avoir sauvé en son temps l'honneur et la dignité du Mali et de l'Afrique.
Même si son nom suscite encore pas mal de passion, Modibo Keïta semble avoir été réhabilité par les Maliens. Et certains édifices tels que l'aéroport de Bamako ont été baptisés à son nom. Ainsi se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali. Modibo Keïta, l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA, qui est devenue aujourd'hui UA, Union Africaine. Vous pouvez évidemment réécouter cette série d'archives d'Afrique sur le site du RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez aussi continuer de réagir comme vous le faites toujours sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Littérature sans frontières.